Un avion! Un avion! Et voilà qui vient de traverser la petite vallée. C'est tellement un avion qui vient de Chine, qui doit se diriger vers l'Europe et qui passe tout naturellement par-dessus les Tian Shan.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, le plaisir de vous retrouver au Kirghizistan. Degrés, quelques nuages dans le ciel, du soleil pour le week-end, c'est le temps qu'il fait et qu'il va faire dans la capitale kirghize ces prochains jours, si on en croit en tout cas le site internet du Centre d'études françaises de Bishkek, un centre créé et dirigé aujourd'hui par Chinara Adamalieva, jeune kirghize de 26 ans, un centre qui propose bien sûr des cours de français, des groupes de conversation, mais aussi par exemple un club de cinéma français qui projette régulièrement des films en version originale pour toute la population de Bishkek. Chinara Adamalieva sera notre invitée en seconde partie d'émission. Elle nous parlera de ce qui préoccupe les habitants de Bishkek ces jours, notamment de cette nouvelle constitution, on en a parlé mardi, nouvelle constitution adoptée dimanche par, paraît-il, les trois quarts des électeurs kirghizes. Chinara Adamalieva nous racontera et nous parlera des fraudes qui se sont vraisemblablement commises au moment de ces élections. Tout cela, ce sera après le dernier feuillet de votre carnet de route. À vous, Mathilde Ganek et Camille Manière. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui?
On va partir dans une région qu'on n'a pas encore explorée dans ces carnets de route, qui est celle du lac Issyk-Kul, qui est un endroit assez symbolique, puisque quand on regarde une carte du Kirghizistan, sur la droite de Bishkek, à l'est, on trouve cette grande tache bleue, qui est donc le deuxième plus grand lac d'altitude du monde, après le lac Titicaca. Donc c'est un endroit qui est très cher au cœur des Kirghizes, qui est un peu leur lieu de villégiature favorite et un lieu magnifique. Donc nous, on va pas rester au bord, mais on va monter dans les montagnes parce qu'on voulait retrouver la vie des bergers dans une période plutôt estivale. Mm-hmm. Donc on a pris nos sacs et on a grimpé pendant quelques heures à cheval puis à pied pour retrouver les alpages à 3000 mètres d'altitude et les yourtes qui surplombent l'immensité bleue du lac. C'est un lieu vraiment, vraiment magnifique.
Et avec qui est-ce que vous êtes?
On est parti cette fois-ci avec Aïsoulou, qui étudiait en France et qui est revenu passer pour la première fois depuis 3 ans des vacances dans son pays et qui, avec nous, s'est un peu replongée justement dans la vie kirghize parce qu'elle a elle-même été petite fille de berger. Donc avec ce recul de presque française, elle est revenue un peu dans cette ambiance kirghize avec nous.
Et vous vous retrouvez ensemble sous la yourte.
Sur les yurts de Omurbek, Omurbek et Kenje. Ils ont un petit-fils qui s'appelle Talratbek. Et Omurbek, il vit aussi avec son petit frère.
Mirzat.
Mirzat. Ouais, qui s'appelle Mirzat.
Il y a combien d'animaux là? Ils ont des moutons, des chevaux?
Oui, il y a des chevaux, les vaches, les moutons. Vingt chevaux, 20 vaches et 350 moutons.
C'est un jeune couple, est-ce que tu peux leur demander leur âge?
Les deux, 27 ans.
C'est combien de temps qu'ils font ce métier de berger?
En fait, lui, il s'est marié, ça fait 8 ans. Mais lui, avec sa famille, avec son père, sa mère, ses frères, il fait ce métier à partir de 89. Il avait 9 ans. Il continue, on peut dire, le métier de son père. Donc, il fait tout le temps comme ça, tous les étés. Et ils sont ici, sur Diallo. Mais les hivers, il est dans le village, Barskon.
On a cherché longtemps l'emplacement de leur jailo, de leur yourte. On a vu en chemin, plusieurs fois, on a vu des anciens emplacements. Il y avait la place où il y avait les tentes. On a vu les enclos où étaient les bêtes. Puis tout ça avait été laissé, abandonné pour aller un peu plus loin. Eux, depuis qu'ils sont là cet été, ils ont changé de place plusieurs fois pour remonter un peu plus haut, chercher de la bonne herbe.
Ils
sont arrivés en avril, 20 avril. Ils se sont installés juste près du bâtiment soviétique, oui, qu'on a vu tout à l'heure. Après, et, vers 20 juin, et, ils sont venus ici. Vers 25 août, ils vont descendre sur l'enclos qu'on a vu tout à l'heure pour couper l'herbe aussi. Et après, ils vont redescendre, ils vont retourner dans le village vers 15 octobre.
Alors comment ça se passe cette transhumance, là, la montée au mois d'avril, au printemps, avec toutes les bêtes, la redescente, comment ça s'organise? Est-ce qu'ils vont à pied? Est-ce qu'ils vont avec des machines? Comment ils montent les yourtes et tout ça?
En fait, c'est ce qu'il dit, et eux, ils déménagent en cheval. Donc, toutes les affaires, la yourte, même la tente, tout, c'est par chevaux. Quoi.
Et les animaux lui appartiennent à lui?
En fait, c'est tous ensemble. Et il y a des animaux qui appartiennent à ses frères, ses sœurs, etc. Donc, et lui, il est seul qui s'occupe de tous les troupeaux qui appartiennent à sa famille.
Et alors, cette yourte sous laquelle ils habitent, elle est à eux aussi?
En fait, oui, comme on dit, cette yourte appartient à son père. Donc, on dit c'est à nous, à notre famille. Voilà, tous ensemble.
Qui a été libéré de son enclos et qui directement a trouvé le chemin des pieds de sa mère. Mais la vie est dure et c'est comme ça. Quand il est question de faire la traite, les petits veaux sont libérés, viennent téter, mais ça dure pas longtemps parce qu'ils sont là que pour attirer le lait de la mère. Et au bout de quelques secondes, c'est la fermière qui prend le relais.
En fait, elle s'est habituée. Au début, c'était un peu difficile.
Ça fait combien de temps qu'elle fait ça?
Oui, ça rend mal. Bonjour. 10 ans.
Et avant d'être mariée avec Omer Bek, elle était déjà dans une famille de bergers?
En fait, oui, avant le mariage, elle avait les vaches dans sa famille, mais pas 11 comme ça. Là maintenant, elle traite les 11 vaches. Avant, c'était 2.
Ah oui. Et donc là, ça dure depuis 6 heures du soir jusqu'à 10 heures, donc ça fait 4 heures pour traire toutes ces vaches.
Ah oui, en fait, là, elle va aller jusqu'à 8 heures du soir. Mais le temps de séparer le lait de crème, ça va prendre jusqu'à 9h30, 10h.
D'accord, donc il y a la première étape, c'est de traire toutes les vaches, donc les 11 vaches qui sont là. Ouais. Et après, avec tout le lait, elle fait de la crème, c'est ça, elle passe au séparateur, c'est une machine qui...
Oui, elle sépare le lait et la crème.
Est-ce qu'elle peut nous rappeler les différents produits à base de lait que les Kirghizes fabriquent?
Kaymak, sarmay, ayran, süt, çögö...
Kaymak, ça veut dire crème fraîche. Ayran, ça veut dire yaourt. Sarmay, c'est le beurre. Oui, en fait, là aussi, le chevogue, elle chauffe la crème fraîche. Et après, ça, elle ajoute un petit peu de sucre. Elle mélange, donc ça devient chevogue.
Qu'est-ce qu'il préfère, lui?
Kaymak.
Crème, plutôt. De la crème fraîche.
Lui, ce qu'il préfère, c'est monter sur le dos des petits veaux pendant qu'ils sont en train de téter, surtout. Voilà, à peine la traite commencée, le premier saut de l'air ramassé. On passe au séparateur, une petite machine qui tourne à la manivelle, qui d'un côté, par un tuyau, fait sortir le lait écrémé, et de l'autre côté, garde la crème, si j'ai bien compris. C'est toujours un petit peu le même mode de vie que les bergers qui étaient là il y a 100 ans, par exemple.
On
consomme tout ce qu'on produit aussi sur le Jailo, du lait, la viande, mais c'est un peu changé au niveau de la consommation des légumes, des fruits. Quoi. Mais il indique aussi qu'il y a peu de bergers sur le Jailo, parce que les gens ils trouvent d'autres moyens d'existence. Donc, par exemple, lui, il a choisi le métier de berger parce que c'est son père qui a les troupeaux. Donc les autres, ils partent souvent pour trouver un autre métier. Donc le métier de berger se perd son importance. Quoi.
Et lui, il ne regrette pas d'être resté berger, de ne pas avoir tenté sa chance, justement à Bishkek ou dans des villes ou dans des métiers un petit peu plus confortables.
Oui, j'ai choisi de faire
Oui. Ça faisait un moment quand il était jeune, il voulait justement aller à Bishkek travailler, mais il a pensé aussi aux parents parce que il était seul qui pouvait s'occuper des animaux, des troupeaux, des bêtes. Finalement, il s'est marié aussi. En gros, il regrette pas, mais du coup, à l'heure actuelle, à l'automne. Par rapport aux gens qui travaillent à Bishkek, qui sont tout le temps, lui, il peut vendre tout ce qu'il produit ici pendant l'été, la viande, le lait, tout ça. Et du coup, avoir beaucoup d'argent par rapport aux gens qui travaillent à Bishkek. Quoi. Ils ne se sentent pas pauvres, quoi, parce qu'il peut toujours exister.
Et dans sa famille, quel statut il a ? Est-ce qu'il a le statut de quelqu'un qui a réussi ? Ou est-ce qu'il a le statut de quelqu'un qui n'a pas été à Bishkek, qui n'a pas fait chauffeur, prof, je ne sais pas ?
Ils sont toujours un petit peu... Vu qu'il a deux frères aînés, le premier qui est à Bishkek, le deuxième qui est dans le village, dans l'autre région. Ils sont un petit peu inférieurs, enfin au-dessus, mais pour lui ça suffit. Ce mode de vie, ça lui convient.
C'est aussi le sort des plus jeunes fils de famille. Assez souvent de rester ou bien au village avec leurs parents, ou bien de s'occuper par exemple des animaux, de un petit peu mettre entre parenthèses... leurs aspirations personnelles pour s'occuper de la famille.
De ma part, je peux aussi confirmer que dans la société kirghize, c'est toujours comme ça. Donc, tout ce qui est les cadets, les petits fils surtout, ils restent avec ses parents.
Les bruits du Jailo. C'est un petit berger qui appelle ses moutons. Ce sont les bêlements tout autour. C'est aussi un avion de grande ligne qui nous surplombe. Et ça plaît beaucoup aux enfants.
Samayak, Prado.
Un avion. Et voilà qui vient de traverser la petite vallée qui est passée entre les deux montagnes qui délimitent un petit peu notre horizon et qui repart. Alors il va où celui-là? C'est un avion qui vient de Chine, qui doit se diriger vers l'Europe et qui passe tout naturellement par celui de Tianjin.
Est-ce qu'on peut discuter un petit peu entre nous? Où est-ce que je vais me mettre? Est-ce qu'elle peut nous décrire, peut-être que ça va lui paraître bête, mais nous décrire le garde-manger, le placard, l'armoire d'une femme kirghize?
Эмиди шаяктарымда мээки моякта турат. Боз идин ичинде деген оң жакта аялдын иди шаягы, кийимдери, окуттары болот да, продуктылар. А сол жагында эркектики болот. Кийимдери, камчысы, шалпыны. Мындай тышка колдон жүрүшү, чырак, бырактар ошол жакта турат.
En général, dans la yourte, tout ce qui est à droite appartient à la femme. Donc tout ce qui est à gauche, donc c'est à un homme. Toutes ses affaires, la cuisine, les placards, la garde à manger, tout ça c'est à femme. Donc on va à un petit coffre où il y a le sucre, la farine, les pâtes. Et dans le placard, c'est surtout la vaisselle.
Et quand on dit que à droite, c'est ça, c'est à la femme, et à gauche, c'est la partie pour l'homme, alors quelles sont les affaires qui sont typiquement féminines et quelles sont les affaires qui sont typiquement masculines?
Producto, idishaya, kayaldartaka, un, dendrit, dendritiachta, erkektikimno, jogimder, mo, ötukdor, öte, kamchalari.
La cuisine, c'est à la femme, donc tout ce qu'il y a à gauche, il a les vêtements de son mari. Là aussi, on appelle kamchi, c'est pour le cheval.
La cravache.
La cravache, voilà, la cravache.
Les jumelles, la cravache, les vêtements. Et alors, le rétroviseur, là, il est pour l'homme ou là pour la femme?
Il est d'autres. Ouais,
pour tous.
On dit souvent que dans la tradition nomade, la femme est très importante. Est-ce qu'elle est d'accord?
En fait, sans femme, il n'y a pas de vie pour tous les nomades. Donc, elle fait presque tout. La traite, le ménage, les dîners, tout ça. Tout ce qui fait les hommes, c'est les moutons. Regarde, surveille les moutons et c'est tout, quoi. Enfin, oui, les rôles sont partagés, mais sans femme, il n'a pas de vie.
Voilà déjà le matin et on est en train de faire nos adieux à Omourbek et sa famille. Levé 6h du matin et puis il a fallu reproduire les mêmes gestes que la veille, la traite des vaches, s'occuper des moutons qui vont maintenant repartir avec leur petit berger Mirzat à cheval de l'autre côté des collines vertes. Et nous on va le suivre, Mirzat, sur un petit moment et puis il va nous accompagner jusqu'à une autre famille qu'on va rencontrer justement de l'autre côté du col. Donc là, c'est la famille des voisins qui se trouve à une petite heure de marche d'ici, quand même. Donc on prend les dernières instructions, histoire de ne pas se perdre une autre fois. traverser le dernier petit torrent, remonter sur la dernière petite colline. Yourte en vue. Le chien aboie et la yourte apparaît. L'entrée du Jailo est marquée par un grand rocher de granit planté au milieu de l'herbe. Donc le Jailo, un petit peu comme chez Omurbek, se constitue d'un enclos, de barrières en bois. Un enclos où sont rentrées les bêtes le soir, et puis sur le côté, elle aussi cerclée de barrières. Il y a la yourte adossée à un petit coin de forêt qui masque à peine l'étendue bleue du lac qui s'y coule en contrebas. On voit deux enfants et une mère qui a l'air d'être en train elle aussi de s'occuper, de séparer le lait de la crème. Donc la traite doit être terminée depuis peu de temps et on se prépare le kaimak, la crème fraîche. C'est une scène assez classique de la vie des bergers. Et on va s'approcher pour faire connaissance. Alors on s'est installé à côté de la yourte, au soleil. Et c'est un peu mal, mais on regarde, comme toujours, la maîtresse de maison travailler. On est arrivé à la fin de la séparation de la crème et du lait. Et on a fait connaissance. Puis Mirgoul, qui est la maîtresse de maison ici, vient de terminer la vaisselle dans le grand kazan, dans le grand plat en demi-sphère, qui lui sert tout à la fois à faire à manger sur le fourneau, à faire la vaisselle et à faire le pain, à faire tout ce qui cuit, tout ce qui a besoin d'un grand réceptacle comme ça. Alors voilà, on est chez Mirgoul, son mari qui n'est pas là pour l'instant mais qui est au village, et ses deux enfants. En tout cas deux de ses enfants, puisque le plus grand est parti avec les troupeaux. Donc il y a Azat qui a 6 ans et qui est timide, qui ne veut pas nous parler dans le micro. Et il y a Aïdaï qui a 2 ans et demi, la petite fille, qui elle aussi est plutôt sceptique pour l'instant.
Nous sommes à l'intérieur de la yourte de Mirgoul cette fois-ci, de Mirgoul et de sa famille. Elle a sa petite fille sur les genoux, Aïdaï, et son petit garçon à côté. Si je me retourne vers le fond de la yourte, je vois un grand rideau blanc et doré, très brillant dans la yourte qui est assez sombre, tout en feutre. Qu'est-ce que c'est que ce grand rideau blanc qui cache le fond de la yourte ?
En fait, ça s'appelle en kirghiz koshogol. C'est la mère qui offre pour les filles qui se marient, donc au jour du mariage. Après, elle met tout ce qui est toshok, les vêtements, tout ça, derrière du koshogol. Parce que c'est, d'une part, c'est beau aussi, d'autre part, c'est bien aligné, donc tout est bien rangé. Après, elle a décidé de fermer, de faire, on peut dire, une deuxième chambre dans la yourte, pour tous les toshok, pour les secrets, on peut dire, secrets de la femme.
Mais pendant le mariage, quelle est la fonction de ce tissu ?
Autrefois, les Kirghiz, les nomades, par exemple, dans la même yourte, il y avait une grande famille, quoi. Donc, par exemple, le fils, il se marie, il divise la yourte, enfin, une même yourte comme deux chambres. Dans la part gauche, il y a les parents, donc avec les enfants, et d'autre part, les nouveaux mariés.
Oui, pour avoir une vie, une intimité, c'est difficile.
Oui. Et donc, et c'est pour ça qu'ils divisent, comme ça, pour faire deux chambres. Et à partir de ça, on a gardé cette tradition. Et dès qu'on a, pendant le mariage, même si on fait dans la maison, on fait juste pour montrer notre culture, notre tradition. On cache la femme derrière Goshogo.
Donc, elle a passé son mariage caché derrière ce grand morceau de tissu.
Non.
Oui, en fait, pendant que tout le monde fête, elle était tout le temps derrière, derrière Koshogo. Voilà.
Ça permet d'être au calme pour réfléchir. Une dernière chose sur, la yourte, en tout cas sur les gens qui la composent. Depuis qu'on est arrivé, elle a son foulard sur la tête, un foulard rose. Et elle a une tunique qui descend assez bas et un pantalon assorti. Est-ce qu'il y a des règles concernant l'habillement chez les Kirghizes et chez les nomades en particulier ?
Avant le mariage, elle était avec les pantalons, comme toutes les filles, quand elle était étudiante. Donc, juste le jour du mariage, elle a changé les vêtements. Bah, c'est la mère de son futur mari qui conseille de changer les pantalons et qu'elle met, on appelle halat, enfin, on a gardé le mot russe, halat, enfin, c'est
peignoir ou...
Peignoir, oui, un peu, bah, l'espèce de peignoir et le foulard, donc c'est ce qu'elle dit, donc c'est toute la vie dans le foulard, le peignoir. Donc elle raconte une petite histoire à sa fille avant de dormir.
Et là, comme il fait nuit et qu'elle a allumé la lampe à pétrole et qu'on attend que son mari arrive enfin, puisqu'il n'est toujours pas arrivé, est-ce qu'elle peut nous raconter une histoire? Une histoire kirghize?
Elle va raconter une petite légende de Barskon.
Алайдан бир хан болуп турда. Анан ал хан деген ушундай көчүп-көчүп, көчүп-көчүп конуп турчукен да. Анан ушу жактан келатып, ушу көлдүн түбүнө конушуп, анан бир топ мотоң-поң бүт эле кыдырып кетиптир да.
Légende kirghize, le soir sous la yourte, on imagine l'atmosphère sans électricité, bien sûr.
Ah, la lampe à pétrole, oui.
De quoi est-ce qu'elle parle, cette légende ?
Elle raconte l'histoire du seigneur Bars, un seigneur de guerre, chef de tribu qui venait de la région de Bishkek et qui a, au cours d'une de ses campagnes, visité cet endroit sur le bord du lac Issyk-Kul où on se trouvait, qui en est tombé follement amoureux et qui a donc établi toute sa famille ici et a dit à ses enfants qu'il voudrait être enterré ici. Donc, elle raconte aussi l'histoire de toute une tribu, de toute la tribu des gens de Barskun, le village qui porte le nom de ce seigneur Bars et des gens qui vivent ici encore aujourd'hui.
Mm-hmm. Donc, légende sur l'identité, sur les fondateurs au fond de ce village. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés racontent tous les soirs des histoires de ce type ou bien c'était parce qu'il y avait des journalistes ?
Non, je crois que c'était vraiment, ça correspondait au déroulement normal de la soirée. La petite Aïdaï, avant de s'endormir, avait besoin de son histoire et la mère s'y est prêtée sans... On avait juste à brancher le micro et rien à demander. C'était vraiment... Les choses se faisaient toutes seules.
On arrive au terme de ce carnet de route, Mathilde Goanek, Camille Magnard. Deux images de fin pour clore ce carnet. La vôtre, peut-être, Mathilde. Vous avez passé une année au Kirghizistan. Quelle est l'image la plus forte que vous ramenez de ce pays ?
Bah, c'est vrai que l'image la plus forte quand on vit au Kirghizistan et que ce soit à Barskon, à Aksaï, à Bishkek, avec des Russes et des Kirghizes, il y a une vraie hospitalité, une vraie générosité. Et quand on entre dans les maisons, dans les bergeries, dans les yourtes, on a toujours cette table couverte de beignets, de bonbons, de confitures, de toutes ces choses qui font chaud au cœur, le thé bien sûr. Et c'est vrai que ces images d'abondance, malgré la pauvreté bien souvent, vont rester sûrement longtemps dans ma tête. Et vont symboliser le Kirghizistan pour moi, c'est sûr.
Le fait qu'on soit accueilli avec de la nourriture.
On est accueilli et on est chez les gens, mais on est chez nous aussi. Et c'est valable pour tout le Kirghizistan. Quand on arrive au Kirghizistan, on est chez soi.
Camille Magnard, votre image à vous ?
Mon image, ce serait celle du retour à Aksaï, puisqu'on y est retourné l'été, après y être allé l'hiver, pour les reportages qu'on a entendus les jours précédents, avec un petit bus jaune qui a vaillamment traversé la steppe, passé les rivières sans aucune route, pour aller trouver les yourtes des bergers qu'on avait rencontrés, encore plus loin, encore plus haut dans la vallée. Et donc, notre arrivée devant ces yourtes et la folie qui a suivi, puisque bien sûr l'hospitalité là était vraiment à son comble.
Et la surprise, j'imagine, quand même, de voir des gens revenir.
Voilà, puisque le premier contact avait été très fort l'hiver, et en partant, on s'était dit qu'on reviendrait, qu'on essaierait de revenir, qu'on allait garder le contact, et puis on a réussi à faire passer certaines choses, des lettres, des photos, pendant la période du printemps. Et le retour à l'été a été vraiment, et ils étaient oui, surpris et vraiment épatés que les Occidentaux qui avaient, s'étaient donné la peine de venir les voir déjà l'hiver, reviennent encore, et donc c'était reparti pour un tour, quoi.
Vous allez y retourner, vous posez ?
C'est sûr qu'on a toujours envie de revenir là où on a vécu, surtout un an, parce qu'on a des amis, parce qu'on a des attaches. Après, on va voir. Oui, on aurait envie de revenir, c'est sûr.
Je pense qu'on a créé trop de liens, justement, trop d'attaches pour ne pas revenir. Je pense qu'il y a forcément un moment où il faudra qu'on repasse par là.
Ça va nous chatouiller.
h 38 sur la première. Nous, on y retourne tout de suite au Kirghizistan avec, en direct avec nous par téléphone, Chinara Adamalieva. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Bishkek, la cathédrale. Vous êtes responsable du centre d'études françaises de Bishkek. De quoi est-ce qu'on parle dans les rues de votre ville, de votre capitale, six jours, Chinara?
Oui, alors à Bishkek, bien sûr, on parle surtout des derniers résultats du référendum, de la nouvelle rédaction de la Constitution, et aussi l'un des derniers événements, c'était le meurtre d'un journaliste dans le sud.
Un journaliste ouzbek, je crois, c'est ça?
Oui, mm-hmm. Oui, mais comme il habitait à Osh, c'est, enfin, on dit la capitale du sud, de la région du sud du Kyrgyzstan. Alors,
et voilà, comment est-ce qu'on parle de l'assassinat de ce journaliste?
On dit que c'était commandé.
Mm-hmm. Par qui?
Les gens disent que c'était organisé par, que ça vient du côté de l'Ouzbékistan.
Mmh. Qui est une dictature assez féroce. On a eu l'occasion d'en parler, de ce pays, de l'Ouzbékistan, que nous avons diffusé une série de carnets de route dans ce pays. C'est pas tout à fait le cas dans votre pays à vous. C'est un régime, on va dire quand même avec une démocratie en tout cas naissante. Vous parlez de cette nouvelle constitution, on en a parlé nous mardi, nouvelle constitution qui donne plus de pouvoir à votre président, Bakiev, dans le conflit qu'il oppose au Parlement. On a parlé ici de fraude électorale. Est-ce que vous avez pu voir cela, vous, à Bishkek?
Oui, justement, les gens disent, ils ironisent bien sûr que le 22 octobre, c'était la fête, entre guillemets, de la chute de la démocratie dans le pays. Puisque, en fait, à Bishkek, ce que je sais, c'est que les gens sont restés la plupart chez eux et ils ne sont pas allés pour voter, que ce soit contre ou pour de la nouvelle constitution. Et que les votes. Vous savez, vous êtes au courant peut-être que les résultats, la présence a été élevée à 80%. Mm-hmm. Alors que actuellement, en réalité, c'était peut-être à peine 10%. à Bishkek. Enfin, je parle de Bishkek.
Mm-hmm. Nous, on parle ici de résultats soviétiques, quand on dit que c'est un résultat aussi important. Comment est-ce que les gens ont réagi, justement, au fait que, effectivement, cette élection, enfin, cette votation, ce référendum sur la nouvelle constitution a été faussé? Comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce qu'ils sont fâchés?
Oui, bien sûr qu'ils sont fâchés. Moi, je pourrais dire qu'ils dépriment un peu, parce que vu que les résultats sont... les votes ont été falsifiés, alors personne... Enfin, beaucoup de gens ne croient plus en avenir, en disant que s'il n'y a plus de démocratie dans le pays, alors c'est à quoi bon se sert de rester dans ce pays. Et puis, même parmi nos étudiants dans notre école, il y a beaucoup d'étudiants qui partent, qui se préparent pour partir au Canada.
Mmh, pour émigrer, pour quitter
oui,
le pays.
Oui, pour émigrer. Mmh. Oui, oui, oui.
Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas voté? Je reviens juste aux votations de dimanche.
Mmh. Eh bien, l'une des raisons, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui étaient au courant, qui ont lu... en fait, cette nouvelle rédaction de la Constitution. Et donc, beaucoup de gens sont restés en disant que même s'ils vont ou qu'ils ne vont pas, les résultats seront fraudés de toute façon. Et c'était le cas.
Donc ça montre bien l'état, au fond, de tristesse, de désespoir de la population qui ne va même plus voter, qui pense à émigrer. Vous-même, Chinara Adamalieva, est-ce que vous pensez, vous, à quitter le pays?
Non, je pense y rester quand même. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui vous attache à votre pays?
Heureusement, j'avais de la chance de voyager un peu il y a quelques années, et donc j'ai vu la vie un peu à l'étranger. J'ai vécu et je pense que quand je compare la vie à l'étranger et la vie dans mon pays, je préfère de rester dans mon pays. Mais le fait, la situation actuelle, elle n'est pas si joyeuse. Et donc, en fait, je reste, mais je vais attendre. Et on va voir ce qui va se passer, mm-hmm. comme tous les Kirghizes.
Mais cette attente, elle est un peu étrange ici, parce que on a les informations qu'on a ici, c'est que vous êtes des gens très fiers, que vous êtes des gens très combatifs, que les Kirghizes sont plusieurs fois descendus dans la rue pour manifester contre le gouvernement du prédécesseur de Monsieur Bakiev, contre le président Bakiev aussi. Est-ce que, au fond, les gens sont fatigués de manifester?
Oui, c'est vrai. En fait, on est assez fatigué de toutes ces manifestations. Et puis, le fait de savoir que tout est déjà calculé en avance, ça donne pas, comment dire, ça donne pas la volonté ou le désir de faire quelque chose contre.
Mmh. Il va y avoir, le Parlement a été dissous cette semaine, le gouvernement a démissionné suite à la nouvelle constitution. Est-ce qu'il y aura des élections donc en décembre? Est-ce que ça veut dire que là aussi, on peut s'attendre non seulement à des fraudes, mais aussi au fait que les gens ne se mobilisent plus pour voter, qu'ils ne voient pas véritablement d'avenir dans les institutions politiques?
Ah oui, bien sûr. Déjà, on a annoncé que les élections seront dans 60 jours. Et que maintenant, tous les partis politiques, ils ont 3 jours pour s'enregistrer. Et vous savez peut-être que le nouveau Parlement soit élu d'après les partis politiques, parmi les partis politiques. Et donc, ces gens-là, ils disent qu'ils ont très peu de temps pour s'organiser et comment dire, informer la population.
Mmh.
Et donc, de toute façon, les gens disent, nous, les habitants de Bishkek, on dit que le parti présidentiel va gagner plus de 50% de vote.
Ça, vous le dites déjà 60 jours même avant le début des élections.
Oui, parce que déjà, on entend, vous savez, on vit et on entend les gens dire que tous les fonctionnaires, ils ont eu déjà des propositions, entre guillemets, comment dire, ils sont un peu forcés de devenir membres de ce parti présidentiel. Et ils reçoivent des ordres comme quoi il faut assurer ces 50% pour que ce parti gagne aux élections.
C'est déprimant, l'actualité de votre pays, Chinara Adam Elieva. Est-ce que en même temps, vous entendez rire. Est-ce qu'on peut quand même se moquer de cela quand on est kirghize? Est-ce qu'on rit de cela ou est-ce qu'on déprime vraiment?
Vous savez, les Kirghizes, c'est un peuple comme... Il y a une personne artistique, enfin un artiste qui a dit les Kirghizes sont un peuple méditatif. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il... moi, je comprends comme quoi ce peuple, il est un peu lent et il aime bien réfléchir, il n'agit pas tout de suite. Donc moi je pense que même si les gens dépriment, même s'ils sont un peu tristes, ils ont une petite un petit espoir que tout va s'arranger et que voilà, on va voir comment ça va se passer. Et quand on serait au bout de patience, on va agir.
Merci beaucoup, Chinara Adam Elieva, d'avoir été quelques minutes avec nous. Je rappelle, vous êtes responsable du Centre d'études françaises de Bishkek. Vous êtes une jeune, vous avez 26 ans. Où est-ce que vous avez appris le français que vous parlez magnifiquement bien?
J'ai fait 4 ans et un an en France. Mm-hmm. J'ai fait 4 ans à Bishkek et puis un an en France. Enfin, moi, ça, il y a longtemps.
Ok, merci beaucoup. On vous souhaite un excellent après-midi.
De rien, je vous remercie aussi.
Bonne soirée en fait chez vous parce qu'il est déjà presque 19h et très bon week-end.
Oui, merci à vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Radio Suisse Romande, la première, un dromadaire sur l'épaule.
Avec Nourbek qu'on quitte le Kirghizistan, on va leur dire une dernière fois. Dès lundi, vous reprenez la route pour un nouveau pays, pour une nouvelle destination, avec des reportages signés Thérèse Obrecht.
Donc, il y a une dizaine de femmes et d'hommes qui dansent, il y en a 6 qui chantent et 2 musiciens dans la cour de la prison. C'est assez étrange. Et là, il y a juste trois personnes en civil, ce sont des membres des familles aussi qui
viennent. Ce sont des nouveaux arrivés qui vont être emprisonnés.
Donc ce serait une gachacha qui a eu lieu ce matin et ils sont déjà là. Donc quelqu'un les a accusés d'avoir commis un crime et on les a mis directement à la prison.
Oui.
Donc ça continue tout le temps, de nouveaux prisonniers, puis les prisons sont de plus en plus pleines.
Oui, mais ils pensent les libérer, puisqu'ils ont libéré plus de 4 000. Ils ont été libérés le mois passé. C'est mardi qu'ils ont été accusés.
De quoi?
Ah, ça je ne demande pas, parce que je sais.
On ne peut pas le dire quand même.
Ce sont des... à côté de dire que c'est le génocide.
Ils sont accusés de
d'avoir tué les hommes.
Les hommes. Ouais. La femme aussi?
Non, maman, c'est... Non, maman. Elle aussi.
Elle a tué.
Ouais.
Elle a quel âge?
Vous faites bien, maman? 75.
C'est un autre prisonnier qui explique. Donc eux, ils contestent. Ils disent qu'ils n'ont rien fait.
Oui. La femme dit qu'elle n'a rien fait.
Mais elle peut quand même rester en prison quelques années jusqu'à ce qu'elle soit jugée.
Ah, de toute façon, il ne peut pas dire ce qu'il a fait des choses, même s'il les a fait.
Elle ne peut pas avouer, pourquoi pas?
Oh, maintenant, il faut une préparation. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on avoue. Il y a un processus de préparation.
Pour une nouvelle gachacha? Donc, ils vont repasser devant des gachacha ou ça se passe
comment? Oui, des fois, ils quittent les prisons pour repasser chez les gachacha, n'est-ce pas?
Oui.
Quand il va en appel, tu retournes. Puis
c'est ça, c'est en appel, ils vont repasser devant une gachacha.
Voilà un extrait du carnet de route de Thérèse Obrecht à découvrir donc dès lundi, 14h sur la première. Véronique Marty, carnet de route réalisé dans une prison au Rwanda.
Le Rwanda, dans nos mémoires aujourd'hui, c'est un génocide, l'un des quatre du XXe siècle reconnu officiellement par les institutions internationales. 1 million de morts entre le 7 avril et le 4 juillet 1994, 100 jours d'horreur absolue au pays des mille collines. Alors, 13 ans plus tard, la société rwandaise est encore sous le choc. Le traumatisme est immense et pourtant, il faut reconstruire, il faut revivre ensemble, revoir son voisin qui a peut-être tué à la machette toute une famille. Et comment, dans ces conditions, parler de réconciliation? C'est au Rwanda aujourd'hui un vœu pieux. Le mot même réconciliation n'existe pas en Kinyarwanda, la langue officielle du pays. Et avant même d'imaginer introduire ce mot dans le vocabulaire, il faut établir la vérité, rendre la justice, une justice difficile, presque impossible, un travail de titan. Au lendemain du génocide, plus de 120 000 personnes sont emprisonnées sur le million présumé génocidaire. 120 000 personnes et la capacité des prisons est à ce moment-là de 18 000 places. Beaucoup de monde, beaucoup trop de monde et les verdicts prennent du temps. Alors, pour venir en aide à la justice traditionnelle, le gouvernement rwandais inaugure en 2002 les juridictions gachacha, les tribunaux populaires censés aider à exercer la justice, mais aussi aujourd'hui de plus en plus critiqués. Et les prisons du Rwanda sont toujours pleines, pleines de génocidaires ou de présumés tels, mais pas seulement. Sur les traces d'une fondation suisse, la fondation DIDÉ, Dignité en détention, Thérèse Obrecht s'est rendue à la prison de Gitarama, au sud de Kigali. 10 000 prisonniers pour 2000 places. Et sur ces 10 000 prisonniers, il y a 120 enfants, pas génocidaires, bien sûr, ils étaient trop jeunes, mais voleurs, violeurs ou soi-disant violeurs, petits brigands, victimes en tout cas d'une grande pauvreté, victimes d'une société traumatisée et malade de la délation. Grâce à cette ONG, un quartier leur est maintenant réservé dans la prison, ils n'ont plus à partager le quotidien dangereux, parfois sordide des prisonniers adultes. Nous allons voir ces enfants dans la prison de Gitarama, une semaine pour vivre un peu de leur quotidien, pour se souvenir aussi d'un massacre inouï et par là tenter d'entrevoir ce que cette onde de choc détruit encore aujourd'hui au cœur de tout un peuple. Green Savannah. Talking.
Soul in My Eyes, c'est signé Somi, révélation jazz de la scène africaine. Somi, chanteuse d'origine rwandaise, vivant aux États-Unis. Rwanda, la vie en rose, c'est le titre du reportage, de la série de reportages qu'on vous propose la semaine prochaine. Pourquoi le rose? Eh bien, tout simplement parce que c'est la couleur des uniformes des détenus rwandais dans cette prison. Et puis, puisqu'on parle de justice et d'impunité aussi, rappelez-vous, il y a un petit peu plus d'un mois, nous avions diffusé un carnet de route à Madagascar de Didier Schmutz, et on avait parlé, c'était un lundi, on avait parlé de ce pédophile suisse navigateur qui avait jeté son dévolu sur une petite île perdue de l'archipel des Mitsiou. Il avait été accusé de viol sur deux enfants, condamné en décembre dernier à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de mineurs seulement. Le viol n'avait pas été retenu, tout comme l'attentat à la pudeur. Et on vous avait annoncé que le procureur de la République malgache avait fait appel. Donc il y a eu dernièrement un nouveau jugement, et ce Suisse pédophile a été à nouveau condamné, mais cette fois à 5 ans de prison ferme. Aujourd'hui, ce Suisse navigateur, ce pédophile, a demandé un pourvoi en cassation. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mandat international lancé contre lui qui permettrait son arrestation en Suisse. Et d'après nos informations, d'ailleurs, il aurait quitté notre pays. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci toute cette semaine à Jean-Claude Gailly en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, à Nathalie Schoenberg qui a choisi les musiques, Dany Sulam, responsable de notre site internet tromadaire.rsr.ch, et à Monsieur T, bien sûr, qui a réalisé les carnets de route. Après les informations, vous avez rendez-vous avec Jean Leclerc, dernier épisode consacré au Watergate. Mathilde Gohanek et Camille Magnard. Cyril Desprand vous souhaite un excellent week-end. Il va être 19h sur les rives du lac Issy-Coule, 15h sur la première.